Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la dystonie cervicale et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Bleton. Monsieur Bleton, bonjour.
Bonjour à tous.
Monsieur Bleton, vous êtes docteur en sciences du mouvement humain, kinésithérapeute, praticien au sein de l'unité Parkinson, service de neurologie, et du service de la recherche clinique et de l'innovation de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris, qui a une grande expertise dans la prise en charge des dystonies. Alors, Monsieur Bleton, nous abordons aujourd'hui la rééducation de la dystonie cervicale. Est-ce que c'est un concept nouveau ?
La rééducation n'est pas un concept nouveau. Dès le milieu du 19e siècle, de nombreuses propositions thérapeutiques ont été proposées par des neurologues célèbres. Duchesne de Boulogne utilisait l'électrothérapie. Henri Meige et Émile Brissot proposaient à leurs patients de pratiquer des exercices correcteurs devant un miroir. Dans les années 70, les behavioristes, qu'on appelait aussi comportementalistes, utilisaient des techniques d'électromyographie biofeedback qui consistent à enregistrer l'activité musculaire et à la restituer aux patients sous forme de signal sonore ou visuel pour qu'ils puissent intervenir sur leur activité musculaire. Ces techniques ont montré qu'il était possible de diminuer la sévérité de la posture anormale par la volonté. Les études de l'époque ont révélé une diminution de la sévérité des dystonies qui se poursuivait plusieurs mois après l'arrêt de la technique rééducative. Ce fut le début de la rééducation moderne.
Et aujourd'hui, est-ce que l'arrivée de la toxine botulique, qui a pris une place importante dans la prise en charge médicamenteuse de cette maladie, a fait perdre l'intérêt de la rééducation de la dystonie cervicale ?
Alors, l'utilisation des injections de toxine botulique ou neurotoxine botulinique ont été une avancée spectaculaire dans le traitement des dystonies cervicales. Leur effet est symptomatique. Elles réalisent une paralysie partielle, qu'on appelle aussi parésie, des muscles dystoniques hyperactifs. Elles réduisent donc leur activité. Si leur effet est significatif, la rééducation garde pour autant tout son intérêt. En effet, la dystonie ne se limite pas à l'hyperactivité des muscles dystoniques. Les muscles qui s'opposent à la malposition de la tête et du cou, qu'on appelle les muscles antagonistes, sont souvent l'objet d'une inhibition fonctionnelle. Certains parlent d'eux comme présentant une dystonie négative. Ce sont ces muscles qui vont être la cible des exercices dont le but est de les réactiver pour les rendre plus fonctionnels. En fait, les injections de toxines botuliques et les exercices correcteurs ont un effet conjoint. Les injections sont utilisées pour diminuer l'intensité des contractures dystoniques et les exercices pour activer les muscles qui corrigent posture et mouvement. L'association de ces deux traitements est désormais largement recommandée.
Alors justement, quels sont les principes fondateurs de la rééducation de la dystonie cervicale, Monsieur Bleton ?
Il n'existe pas de protocole de rééducation unanimement reconnu. De nombreuses approches, méthodes rééducatives sont proposées avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Aussi, faute de consensus, les exercices les plus efficaces sont élaborés en fonction de la présentation clinique de chaque patient et des connaissances physiopathologiques propres aux dystonies. Pour cela, il faut une analyse précise de la position de la tête et du cou. L'observation des mouvements anormaux au niveau cervical permet de définir les plans de déformation. La déformation s'organise souvent de manière tridimensionnelle. On peut avoir par exemple un torticolis, c'est-à-dire une rotation cervicale, associé à un latérocolis, c'est-à-dire une inclinaison, et un rétrocolis, c'est-à-dire une extension, donc une désorganisation du mouvement dans les trois plans de l'espace. Cette analyse de la posture qui précède le traitement est essentielle parce qu'elle va permettre de proposer des exercices spécifiques qui sont dits en mouvement inverse, c'est-à-dire de prendre le contre-pied de l'attitude dystonique afin de favoriser l'action correctrice des muscles qui s'opposent à la dystonie. Il s'agit donc, en rééducation, de porter la tête du côté opposé à la dystonie, puis d'être capable de la maintenir dans cette position opposée, puis progressivement de maîtriser les mouvements de la tête entre la position neutre et la position corrigée, et enfin d'être capable de balayer l'ensemble de l'amplitude d'un côté et de l'autre, et d'être capable de tenir la position du droit devant, qui est le but final de la rééducation et des injections de toxines.
Et d'un point de vue pratique, quelles sont les modalités de pratique des exercices spécifiques à la dystonie cervicale ?
Alors, il s'agit de trouver des positions qui sont dites de moindre dystonie, c'est-à-dire des positions où la dystonie s'exprime de façon modérée pour faciliter l'activité des muscles correcteurs. La dystonie variant d'intensité en fonction de la position du sujet, des efforts musculaires qu'il accomplit, les exercices peuvent être commencés couchés, puis pour progresser en position assise, puis debout, et puis enfin à la marche. Deuxièmement, pour faciliter la rééducation et avoir une bonne efficacité, il faut pratiquer de manière focale, être bien spécifique sur les groupes musculaires correcteurs. Des exercices qui seraient trop globalistes, trop généraux, auraient pour conséquence de développer des co-contractions, c'est-à-dire d'impliquer des muscles qui n'ont rien à voir dans le mouvement et qui viendraient perturber ce mouvement. Donc, ce sont des co-contractions. Et de développer aussi un phénomène qui est propre à la dystonie, c'est-à-dire l'overflow, le débordement de contractions. Cet overflow aussi justifie pourquoi on évite de faire les exercices avec des résistances ou avec des efforts excessifs. Les efforts musculaires sont à l'origine d'un débordement de contraction. On commence la contraction au niveau du muscle que l'on souhaite activer, et la résistance va entraîner un débordement de cette contraction, c'est-à-dire les muscles voisins vont être impliqués et vont perturber le mouvement recherché. Ensuite, on essaye d'inciter à répéter les exercices. Donc, l'idée, c'est de travailler à bon niveau de contraction, mais de répéter souvent dans la journée les exercices correcteurs. En fait, l'efficacité est dépendante du temps qu'il aurait consacré. L'objectif est d'obtenir une correction de la posture et du mouvement de manière fréquente. En fait, on ne fait bien que ce que l'on fait souvent. Les exercices donc en auto-rééducation, où le patient apprend et est capable de pratiquer les exercices seul, sont sollicités. Le patient ainsi est incité à pratiquer 2 ou 3 exercices, pas plus, mais très souvent dans la journée, 2, 3, 4 minutes toutes les heures et demie, c'est-à-dire 6 à 8 fois par jour. Il faut qu'il y ait une répétition pour qu'il y ait un apprentissage et pour pouvoir jouer sur la plasticité cérébrale. Enfin, il faut, pour que la correction soit intégrée dans les activités de la vie courante, il faut organiser le plan de travail et les activités de la vie quotidienne de manière à maintenir de manière spontanée la tête en position corrigée. Donc, il faut installer l'écran de l'ordinateur de manière à tourner la tête du côté opposé à la dystonie. Il faut placer son conjoint à table de façon à tourner la tête en correction. Enfin, sur le plan général, il faut conseiller de pratiquer de l'activité physique, de se garder en forme. Il n'y a pas de contre-indication à la pratique d'un sport, avec bien sûr des préférences pour les activités qui vont plutôt sur la détente et la correction, en piscine, la natation, en nageant, en corrigeant la tête, ou bien des activités comme le yoga ou le tai chi.
Est-ce que la rééducation de la dystonie cervicale porte uniquement sur le trouble moteur ?
Ah non, pas uniquement. D'autres troubles sont associés au trouble moteur. Ils sont aussi l'objet d'une rééducation spécifique. On peut citer le trouble ou le déficit d'intégration des informations proprioceptives. Proprioceptives, c'est-à-dire la perception de la position de la tête. Cette perception de la position de la tête est souvent perturbée. Le maintien en position pathologique modifie la perception de sa position droite. En fait, le patient s'habitue à sa posture anormale qui devient en fait la posture référentielle. Des exercices spécifiques de reconnaissance du placement de la tête en position neutre sont proposés pour retrouver une perception équilibrée de la tête. Ces exercices sont souvent pratiqués les yeux fermés pour se concentrer sur les informations sensitives provenant de sa nuque et être capable de retrouver la position neutre. Autre élément qui vient aussi perturber la dystonie et qui n'est pas un trouble moteur, ce sont les douleurs et inconforts qui sont elles aussi l'objet d'une attention particulière. Il faut jouer sur le relâchement musculaire, faire des étirements doux, rechercher détente et relaxation.
Et quel est le meilleur moment pour pratiquer la rééducation de la dystonie cervicale ?
Déjà, il y a un moment idéal pour faire le bilan nécessaire à la rééducation. Pour bien connaître le patient, il est souhaitable de l'observer avant que les injections de toxines botuliques ne fassent effet, afin d'analyser la forme initiale de la dystonie et non la forme corrigée pour bien définir les objectifs à atteindre. Pour la rééducation, elle peut être commencée dès le jour même des injections et profiter de la diminution de la force des muscles dystoniques. Donc c'est dès l'injection le moment le plus favorable à la pratique de la rééducation. Et au jour le jour, c'est dans la journée, c'est plutôt une répartition sur l'ensemble de la journée qui est conseillée.
Et finalement, Monsieur Bleton, quelle efficacité peut-on attendre de la rééducation ?
Alors, comme efficacité à court terme, on a pu montrer que la répétition d'un même exercice correcteur permet de corriger la posture et le mouvement. Mais ce bienfait est de très courte durée. C'est pour ça qu'il faut répéter fréquemment les exercices dans la journée pour obtenir un effet durable, une automatisation de la correction et jouer sur la plasticité cérébrale. Les bénéfices apportés par la rééducation portent sur la diminution des douleurs, l'amélioration de la vie quotidienne, comment trouver une bonne position pour s'endormir ou regarder la télévision, et permettre d'augmenter l'intervalle de temps entre deux séries d'injections.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, Monsieur Bleton. En guise de conclusion, quels sont les points que vous souhaiteriez particulièrement souligner ?
Je tiens particulièrement à souligner que la rééducation doit s'adapter à chaque cas pour proposer des exercices spécifiques. Et d'autre part, il faut souligner que la rééducation est un complément essentiel aux injections. Ses effets avec les injections sont synergiques. Et elle en potentialise les effets.
Eh bien, merci mille fois, Monsieur Bleton, de nous avoir fait mieux connaître la rééducation de cette maladie rare qu'est la dystonie cervicale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.